Salut les jeunes, bienvenue à Angle Mort édition spéciale. Oui, édition spéciale parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, 55 ans. Alors à ceux qui se demandent si la vie passe vite, je peux vous le confirmer, puis je suis pas le premier à vous le dire. 55 ans, ma chum cintre m'a fait une joke épouvantable ce matin, elle me demande, elle dit « C'est quoi dans ton adresse précise et ton email? » Fait que là, je donne, je me dis « Bon ben... » Ben, habituellement, à chaque fête, elle fait des trucs et tout. Elle va m'envoyer. 10 minutes après, je reçois ma carte de membre de la FADOC. Oui, mesdames, messieurs, Fédération de l'âge d'or du Québec. Ça commençait, à ma grande surprise, ça commence à 55 ans. À moi, les rabais. À moi, les trains pas chers. Je sais pas, hein. En tout cas, sérieux, je vais regarder si j'ai le droit, why not? Ça fait que je pourrais vous faire un angle mort sur tout ça, sur l'idée de vieillir ou autre, ou peu importe, mais c'est pas, ça m'habite pas vraiment. Le chiffre de 50, je l'avais trouvé spécial. J'avais fait comme calvasse. Mais depuis, sérieusement, là, ça fait que je suppose que c'est en grande partie comment on se comporte, puis comment on s'entretient aussi. Là. Ça fait que moi, en tout cas, pour ma part, ça me cause mais 0,01% de dérangement ou rien. Puis c'est toujours le fun. Tu sais, à ta fête, plein de monde t'appelle, puis t'as la face. Ça fait que c'est le fun. Donc, je suis bien heureux de ça. Je vais vous conter ce que j'ai fait en fin de semaine parce que vous avez constaté, pour tous ceux qui me suivent fidèlement et régulièrement, que vendredi, il n'y a pas eu d'épisode. Ça arrive, rappelez-vous, quand je vais à Québec. Quand je vais à Québec, j'ai la fâcheuse tendance des fois d'oublier de céduler mon horaire pour vous faire mon podcast en début de journée. Ça fait que là, jeudi, moi, j'ai eu de la visite. Mon ami Nicolas, Monsieur Nicolas est venu ici. Après ça, on est reparti le lendemain matin vers Québec. J'avais un meeting avec mes clients saillants. Après ça, j'avais un pique-nique avec mon ami Lydre Dorion, un ami à moi depuis l'université. Après ça, je couchais au Concorde. Concorde était pas cher, 99$. Ça vaut ça. T'es très, très bien placé, c'est parfait, mais c'est des petites chambres cheapettes, là. Ils ont une stratégie qui fait qu'ils peuvent charger pas mal moins cher que ce que ça vaudrait être sa grande allée. Mais... quand tu rentres dans la chambre. Mais ceci étant dit, j'ai bien dormi, le lit est parfait. C'est correct. C'est juste que, tu sais, le côté petite décoration cheapette, on dirait que ça... Je sais pas, il y a quelque chose qui te gosse. Puis après ça, tu te rappelles que tu as payé 99$ plus taxes. Puis tu te dis, c'est parfait. Et le lendemain, après ça, je suis allé voir ma mère. Moi, je suis aidant naturel là, à la résidence où elle reste. Fait que moi et mon frère, on peut, en alternance, aller la voir maintenant. Tout le monde est vacciné, tout ça. Ça fait que, tu sais, dans le fond, quand tu regardes les règles, t'es capable de te faire un petit mini-séjour à Québec. Non, je peux pas. Habituellement, moi, je couchais chez ma mère, c'était le fun. Mais là, on peut pas. Ça fait que, tu sais, t'es comme un peu coincé quand tu changes de ville, mais les hôtels sont ouverts. Ça fait que ça a été vraiment très bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que, rappelez-vous, je vous l'ai dit, à un moment donné, j'ai fait un épisode qui était juste « Je m'ennuie », c'était ça le titre. Puis moi, j'en ai parlé parce que je suis pas un ennuyeux, je suis pas quelqu'un qui vit le sentiment de solitude. Moi, je vis pas ça. Ça m'habite pas pantoute. Mais là, depuis 2 semaines, je trouvais ça lourd. J'étais très démotivé. J'ai sauté chef boileur cuit. Là, vas-tu, cette semaine, ça repart. Mais j'ai sauté une semaine complète. J'ai jamais envoyé ma newsletter depuis un bout. Tu sais, j'avais pas un problème genre, mon Dieu, je suis depressed. Là, c'était pas ça pantoute. Mais c'était vraiment comme mes projets où habituellement, moi, je suis très motivé naturellement. Moi, j'ai vraiment besoin de rien ni personne pour me garder assidu. Mais là, après plus d'un an à faire du podcast tous les jours, à rajouter un puis de l'autre, puis la patente, puis de la ligne ouverte, puis tout, je voyais que même mes chroniques à radio, c'est long, là, tu sais, ça pouvait me prendre 3 heures par jour, me trouver des sujets, puis tout. Une espèce de fatigue peut-être mentale, puis une accumulation aussi, puis la période n'est pas jojo. Fait que des fois, tu te penses un peu au-dessus de ça. En tout cas, je pense que c'était mon cas, en voulant dire, je me trouvais même privilégié, parce que la job à radio, tu sais, franchement, nouveau condo, tu sais, tu fais comme, OK, puis c'est vrai, je pense en situation de me plaindre. Puis c'était plus un coup de motivation, tu sais. Ça fait que ça m'a fait un bien énorme. Ça fait que si des fois, vous trouvez que ça tourne en rond, votre affaire, n'hésitez pas là à investir du temps, puis peut-être même un petit peu de cash à dire que vous changez d'air. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une... Je sais pas, n'importe quoi. Tu vois, moi, j'ai pas rien fait de miraculeux, là. Le seul truc... C'est un hôtel à 100$ pour un week-end. Je suis revenu avec des points que j'avais d'accumuler par autobus. C'est fait que, tu sais, c'est comme... En tout cas, ça a été vraiment, vraiment génial. Aujourd'hui, ben comme d'habitude, le lundi, quand j'écoute l'émission, Je reviens un peu sur « Tout le monde en parle ». Donc, je ne ferai pas le tour d'absolument tous les invités, mais quand même, quelques-uns. C'était une émission correcte. C'était pas la meilleure, c'était pas la pire. Alexandre Barrette, il fait un très bon fou du roi par définition de ce qu'est un fou du roi. C'est-à-dire qu'il s'occupe principalement de puncher, de faire une joke ici et là, etc. Puis c'est efficace, m'a fait rire. Mais je préfère quand même Anaïs Favron qui s'implique plus dans les entrevues. Puis moi, je crois que c'est un plus, honnêtement. Mais évidemment, elle se fait ramasser avec ça. Fait que c'est sûr que la politique d'Alex Barrette, ça fait en sorte qu'il y a énormément moins de chances de se faire ramasser. L'autre, vois-tu, parce qu'elle a été un peu confrontante sur les questions à Marie-Pierre Morin, ben ça a été comme n'importe quoi. Fait que c'est d'une tristesse. Mais c'est quand même deux très bons candidats pour être permanents. Il pourrait y avoir une alternance, moi je serais pas contre. Une semaine, c'est plus X, plus Y, pourquoi pas? Tu peux jouer avec tout ça. Donc, le premier invité, c'était Guylaine Tremblay. Puis Guylaine Tremblay, puis ça, je vais faire un lien avec le gala artiste aussi. Guylaine Tremblay était là pour aucune raison valable. Je m'explique pas encore qu'est-ce que... À tout le monde en parle. Elle s'en va dire que... ben voilà, on m'a demandé, puis j'ai fait l'objet d'une vidéo, finalement, telle affaire. Je veux dire, j'ai tout compris ce qu'elle disait, puis c'était tout clair, puis je suis tout d'accord avec ça. Mais... si c'était pas Guylaine Tremblay, est-ce qu'elle aurait été là? Est-ce que tout le monde parlait de ça? Non. Fait que c'est comme weird. C'est comme weird. Je trouvais que c'était... moi, j'écoutais ça en me disant « Ouais, mais encore. » Tu sais, c'est comme... Puis ce qui est capoté, c'est que c'est pas la première fois qu'elle tombe dans des patentes de même. L'affaire de Sinorama, tu sais, il y avait trois... C'était le troisième cas où est-ce qu'elle se faisait un peu avoir, tu sais. Fait que de un, tu te dis « Elle a-tu un agent? » Parce que ça sert à ça, hein, un agent ou un gérant. Ça sert justement à faire le filtre entre un paquet de demandes qui n'en finissent plus. Puis ton agent, ben, il développe des techniques. Moi, je me souviens, ce que je disais tout le temps, c'était « Écoutez, c'est, votre cause est fantastique. » Quand quelqu'un appelait, mettons, « On voudrait avoir Jean-Michel Anctil. » Je disais « Wow, c'est vraiment une belle cause, sauf que vous comprenez que Jean-Michel, il a déjà telle cause. » C'est une des raisons pour laquelle je disais tout le temps « Ayez une cause. » Ne serait-ce que pour être capable de dire non aux autres, parce que sinon, ça n'a plus de sens. Puis tu le dis ouvertement, tu dis « il y a déjà une cause, puis je suis approché pour plein d'affaires, ça fait qu'évidemment, si je commence à dire oui à un, pourquoi j'aurais dit non à l'autre et tout? » C'est triste, mais il faut que tu le gères. Tu peux pas commencer à être le porte-parole de l'univers, tu sais. Ça fait que c'est ça. Ça fait que je me demande juste... Mais en même temps, quand je vous dis ça, je réponds en même temps à ma propre question, c'est-à-dire que quand tu es aussi populaire que Guylaine Tremblay, preuve en est qu'elle gagne et gagne et regagne, c'est sûr que t'es sollicité l'enfer, ça n'arrête juste jamais, tu sais. Ça fait que dans le lot que tu dis oui ou que tu dis non, à un moment donné, il y a des perce-oreilles qui slident dans une fente du solage. Puis ça a été le cas. Mais je trouvais pas que c'était pertinent, comme si c'était comme la grosse affaire. Bon, bref. Après ça, ce qui pour moi était le plat principal, c'est une fille nommée Liz Plank, Elizabeth Plank, qui a écrit un livre il y a 2 ans en anglais qui a été traduit en français. Et hier, elle a continué sur la même veine de ce que je pense d'elle depuis les quelques fois que je l'ai vue. C'est-à-dire que c'est une fille qui a à peu près tous les talents, qui pète l'écran, là, tu sais, qui est comme « Wow, check-moi, là, c'est une fille, moi, en tout cas, moi, c'est mon genre grave », qui est hyper articulée, qui ferait une fille à TV, d'ailleurs. Ben, elle est sur certaines émissions aux États-Unis... Comme journaliste, qui est sa profession. Et puis, elle a écrit un livre qui s'appelle « Pour une masculinité positive ». Tu sais, puis, alors, il y a beaucoup d'affaires à dire là-dessus. J'ai pas lu le livre, je parlerai pas du livre. Je parle plus de sa démarche. Moi, hier, elle me l'a très bien vendu, le livre, mais malgré ça, je me mettais dans la peau de Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, puis on comprend, puis on comprend pas. Tu sais, dans le sens que c'est clair, puis c'est pas super clair, parce que c'est toujours ça quand on parle des mœurs. Parce que c'est de ça qu'on parle. Elle a beau se cacher en arrière d'une démarche journalistique avec des recherches, puis etc., ça reste que c'est des mœurs. Puis ce qui ressort beaucoup de ce qu'elle dit, qui en substance est fort intéressant, c'est fort intéressant, mais c'est parce que c'est pas complet. Ça a la prétention d'être complet, mais ça l'est pas. C'est-à-dire que ça dit, regardez, les gars sont souvent élevés en gars, etc. En un mot, les gars seraient tous pareils avec la même prémisse, qui est complètement faux. Alors, c'est répandu, bien entendu, puis s'il fallait tout le temps s'arrêter à « Ah, c'est pas tout le monde », on dirait jamais rien. C'est que moi, je suis très d'accord avec sa démarche, très d'accord avec le travail qu'elle a fait, etc. Même si j'ai pas lu le livre, elle l'expliquait, qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Puis, je trouve que c'est complètement valide. L'affaire, c'est que ça prétend, en partie, du moins, ça prétend faire le tour de l'idée de ce qui est masculin, que par définition, on embarque tous dans une espèce d'idée que le gars doit être le pourvoyeur, etc. Moi, le premier, j'ai pas été élevé de même. 0-0-0. J'ai été élevé de façon très classique, catholique, Charlebourg. Mais mon père braillait à journée longue, à plus vieillissait, plus, tu sais, j'ai comme l'espèce de côté, un gars, c'est rigide, là. Moi, j'ai pas vu ça. Ni moi, ni mon frère, on n'est pas été là-dedans, papa en tout. On ne va pas être les seuls, je suppose. Ça fait tout ça pour dire que j'aimerais vraiment lire son livre, comme j'ai le livre d'India Desjardins, d'ailleurs, que j'ai acheté il y a quand même quelques semaines, puis que j'ai pas commencé encore, parce que je veux le lire quand j'ai vraiment la tête à. Puis elle parle de la valorisation des amours toxiques. Dans la fiction, en partant de Sex and the City. Alors, avec sa prémisse, c'est super intéressante. Mais je pense que dans les deux cas, mais il faut que je lise les deux livres pour me prononcer, mais c'est souvent des démarches qui sont, si tu veux, déguisées en démarches très journalistiques, très « j'ai questionné des experts », etc. Ça veut comme un peu circonscrire le sujet. Mais la réalité, c'est que Il y a quelque chose qui est un débat éternel, qui se mesure très mal, c'est l'acquis versus l'inné. C'est-à-dire qu'on a beau dire « Ah, tout est construit, les gars sont construits par la société, puis le patriarcat, puis blablabla. » D'un, quand tu places la loupe à quelque part, c'est patriarcal. Quand tu places la loupe ailleurs, c'est le matriarcal. Bon, c'est un heureux mélange, une société, parce que c'est 50-50, tu sais. Ça fait que l'inné et l'acquis, les débats font rage auprès des gens qui sont très sérieux dans leurs études, tout comme n'importe quel quidam qui fait juste observer le fameux « un gars, c'est un gars, une fille, c'est une fille », bien, il y a un bout de vrai là-dedans. Ça fait que c'est pas 100%, c'est pas parce que tu fais un livre ou tu as décortiqué un sujet que finalement tu as fait le tour de ce sujet-là. Parce que dans ce cas-là, c'est comme si on dit « regardez, voici comment la société est construite, voici comment on grandit là-dedans », ce qui est tout à fait vrai. Et puis voilà, c'est comme ça. Il faut maintenant voir ça de même. Ben non. Parce qu'à un moment donné, il y a des allégeances, il y a des psychologies. Je veux dire, juste le bonheur, prenez le bonheur. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Yuval Harari dans son livre Sapiens, où il explique que le bonheur, c'est de la chimie au cerveau. Puis preuve en est que deux personnes peuvent avoir une vie identique, puis un est heureux, l'autre est malheureux, tu sais. Tu peux pas choisir d'être heureux comme certains le prétendent, c'est faux. Moi, je suis né avec le bonheur facile. Ça veut dire que c'est acquis. Je veux dire, c'est inné. Dans ma tête, moi, c'est facile d'être heureux. Ça me prend pas grand-chose. Puis, ça fait qu'après ça, on peut dire, ah, c'est parce que là, bon, tes parents, t'es cité ça. Oui, je comprends, mais c'est pas l'attitude de mon père qui m'a mis une chimie dans le cerveau. C'est les gènes de mon père, de ma mère et de ses descendants, tu comprends? Ou de ses ancêtres à lui, là, si on veut. Là. Ça fait que tout ça pour dire que ce que j'ai trouvé hier quand je voyais Madame Planck, c'était quelqu'un de particulièrement articulé avec qui moi je serais emballé de faire de la radio avec elle sur ces questions-là ou un podcast ou autre. D'ailleurs, j'ai fait une entrevue avec elle, Isabelle Maréchal, où est-ce que ça s'est déroulé moyen, parce que justement, j'étais pas en pamoison en train de dire waouh, voici le Saint Graal, une chance qu'elle est là. Ça fait, mais ce que je vous dis là, j'y ai dit. Je trouvais que c'était effectivement un travail extrêmement valable, en partant, juste la démarche. Encore une fois, le livre, ne l'ayant pas lu, je ne commence pas à en parler. Mais elle est très intéressante. C'est théorie, j'ai le goût d'en savoir plus, j'ai le goût de voir exactement d'où ça vient. Mais ce que je vois, c'est que, au-delà d'un essai, parce que c'est bel et bien de ça qu'on parle, un essai, et non pas une recherche scientifique, c'est un essai parce que tout ce qui parle des mœurs, il y a tout le temps beaucoup de zones grises. Ça fait que c'est très intéressant. Maintenant, jusqu'à quel point c'est vrai puis ça s'applique. Puis le dernier point, c'est que comment faire pour que les gars s'intéressent à ça sans être obligés, parce qu'elle dit elle-même, elle est très wise là-dessus, puis je sais que c'est sincère, en tout cas, ça semble l'être. Quand elle dit, c'est pas une fille qui va vous dire, hey, faites ça. D'ailleurs, c'était un des points que moi j'amenais à l'entrevue que j'avais faite avec elle, avec Isabelle Maréchal, où je disais, c'est pas une fille à dire c'est quoi un vrai gars, puis moi, j'ai pas l'intention de dire à une fille c'est quoi une vraie fille. Ça m'habite pas, puis c'est pas de mes affaires. D'où un peu l'idée, moi, du livre que j'écris, c'est-à-dire apprendre à être contrarié et accepter de contrarier. Parce que d'après moi, un vrai gars, c'est pas un gars qui dit « Ah, voici une fille qui me dit que c'est ça un vrai gars, donc je m'y plie puis je suis heureux. » Et vice-versa. Il faut accepter de contrarier les autres, ça s'appelle l'affirmation de soi. Ça fait qu'en tout cas, tout ça se complète bien. Ce que je trouvais hier, c'est qu'il y avait comme quelque chose de très intéressant à explorer plus loin. C'est très tough de prendre tout ça, Parce que c'est lourd comme travail. C'est plus facile de faire ce que je faisais avant, dire « Hey, les gars, je vais vous donner des trucs de cruise. » D'ailleurs, j'ai trouvé ça très intéressant que 20 ans plus tard, une féministe affranchie, affichée comme Lise Blank, dise ouvertement, quand elle parlait avec Alexandre Barrette, que le flirt, la drague, etc., c'est quelque chose qui devrait s'enseigner. My God, dis-moi pas, ça aura pris 20 ans. Mais moi, je l'ai toujours dit. C'est sûr que moi, j'étais arrivé sur un show d'humour, puis j'étais baveux, puis c'était pédagogiquement, j'étais là pour les gars, mais pas pantoute pour l'ensemble de l'œuvre, là, on se comprend. Mais il reste qu'en dehors des petits lieux communs, genre, ah, il faut s'écouter, puis des niaiseries qui, finalement, parlent à personne. Elle reconnaissait hier, puis elle a raison. C'est difficile, je dis pas que c'est facile, mais elle a raison que on devrait parler de ça, puis qu'actuellement, personne parle de ça, parce que c'est rendu un tabou épouvantable. Puis ça a commencé parce qu'Alexandre Barrette disait « Pourquoi on n'a pas des cours de peine d'amour? » C'est tellement vrai! Pourquoi on n'a pas des cours de peine d'amour au lieu d'avoir des cours de comment repriser ses bas, là, tu sais? Sauf que le problème, c'est que quand t'arrives dans les mœurs, il y aura toujours quelqu'un pour dire « C'est pas de même qu'il faut le dire, telle affaire. » Puis finalement, les gens disent rien. Mais je suis tellement d'accord. Ça fait qu'écoute, j'espère qu'on va la revoir souvent. Elle, moi, si j'étais directeur des programmes, je l'engagerais. Hier, je la regardais aller, je me disais, la fille est super belle, articulée à mort. Très aussi, tu sais, bubbly, là, genre, qui semble être une fille de bonne humeur. Elle t'a fait une super prestation. Bref, je la félicite. Je suis pas obligé d'acheter en bloc ni sa démarche, ni ce qu'elle dit, mais tant que j'aurai pas lu le livre, je ferai pas. Puis d'ailleurs, le livre d'India, quand je vais l'avoir lu, ça va faire l'objet d'un angle mort au complet. Ça fait que tout ça est très, très intéressant. Et puis après, on a eu Sophie Lorrain et son chum, là, j'oublie le nom, qui sont vraiment prolifiques, genre ça n'est gênant. Ça rajoute peut-être un peu, on dirait que c'est toutes les mêmes qui sont en onde. S'il y a un côté rassurant quand tu distribues des contrats, de savoir que si tu le donnes à Sophie Lorrain et son chum, ben ça va marcher et ça va être bon. Je peux pas blâmer personne de travailler avec du monde qui ont affiché leurs compétences. Je peux pas. Ça fait que hier, c'était intéressant. Mais Sophie Lorrain, je la trouve particulièrement... Elle m'inspire quelque chose de très positif, cette fille-là. Hier, là, je la regardais, puis je trouvais qu'elle vieillissait extrêmement bien. Elle semble très solide, puis en même temps, très cool. C'est une fille qui gagne à être connue au plan personnel. Je sens chez elle une petite pudeur à cet effet-là, là, mais quand même. Après, on a eu Régine Laurent, qui s'occupe toutes des histoires de famille, les enfants. C'est la ministre, je pense que c'est ça, ministre de la famille, là, là-dessus, vous me pardonnerez. Là. Puis... elle a déposé, après 2 ans, là, le fameux rapport sur comment réformer la DPJ, etc. Puis c'est le fun de voir que les intervenants, en particulier ceux qui sont sur le terrain, ont applaudi tout ça. Ça semble être dans le sens de ce qu'il faut faire. Maintenant, mon expertise à cet effet-là est à 0%. Je peux juste me réjouir que cette dame-là, à chaque fois, a toujours l'air de connaître son dossier. Puis c'est rassurant. C'est rassurant. Je pense pas que ça va être juste « Ah, ça nous prend encore plus de ressources. » Parce que ça, on l'entend tout le temps. Hein. C'est comme si c'est toujours un problème de ressources. T'sais. Ben à un moment donné, oui, non, peut-être. Là, c'est peut-être aussi les façons de faire. C'est pas tout le temps des problèmes de ressources. C'est très syndicaliste comme pensée. Sauf que, encore là, je suis pas un spécialiste de ça, mais j'ai l'impression que ça allait au-delà de ça, ce qu'elle racontait hier. Que c'était vraiment justement là, une façon, tu sais, comme qu'il y ait un commissaire qui s'occupe du droit des enfants, donc qui va être comme un espèce de représentant national des enfants eux-mêmes et non pas tout le temps. Ça, c'est une autre affaire aussi que Lise Plank disait. Elle dit, comment ça se fait que quand tout à coup un homme est violent, on prend la femme puis on la met dans des maisons d'hébergement? C'est tout ça quand je vous parle du sujet là, que je fais comme, il y a quelque chose qui marche pas. Le gars peut être, c'est lui qui cause le trouble puis c'est comme il faut s'occuper de tout le monde après coup. Ça a rajouté une couche à mon interrogation. J'aime pas cette situation-là. Je sais pas trop comment... Bref. Ça fait que... Et puis, je vais terminer avec un mot sur le gala artiste. Parce que Richard Therrien, qui est le Hugo Dumas, si tu veux, du soleil, à Québec, puis qui parle de télévision, il a envoyé des statistiques sur qui a gagné le plus. Tu sais, t'avais Patrice Lécuyer... Guylaine Tremblay, tu sais, des 20-23 prix nominations. Je l'ai pas sous mes yeux, là, le tweet, là, j'arrive de faire mon marché, mais... Puis, évidemment, ça ramène le sempiternel, on voit toujours les mêmes. Mais je veux juste vous dire que dans un vote public, comme gala artiste, si c'est tout le temps Guylaine Tremblay, qui elle-même disait « J'ai pas tourné depuis novembre 2019 », donc elle s'est dit « En 2021, ils penseront pas à moi », mais oui, ça me fait penser à Lise Dion, qui ça faisait 2 ans qu'elle avait pas fait de show, Puis elle était en nomination pour être humoriste de l'année. Je me demande si elle avait gagné. Tu fais comme, ben oui, mais humoriste de l'année, humoriste peut-être à vie dans ton cœur de spectateur Bravo, mais que t'as rien fait cette année, puis t'es humoriste, ben qu'est-ce que ça démontre? C'est que le fameux, on voit toujours les mêmes, mais c'est vous autres qui voulez voir les mêmes. C'est tout, là. Les gens votent tout le temps pour les mêmes. C'est que la vraie question, c'est pas autant est-ce que les gens veulent revoir les mêmes faces. Mais je pense que ça, c'est normal dans tout. Faut arrêter de penser que c'est unique aux médias. Mais ça ramène aussi le pouvoir d'un directeur des programmes d'inventer cette personne-là, chose qu'ils font très peu. Il est vraiment plus là le cœur du problème. C'est pas est-ce que le monde veut voir les mêmes vedettes, absolument. Mais est-ce que ces vedettes-là peuvent être créées ou il faut attendre qu'ils soient inventés par une espèce d'offre et demande dans un vortex qui fait que, ah, ben là, la saucisse high grade, là. Plus le monde voit Martin et Matt, plus Martin et Matt veut voir le monde. Non, ça marche pas. C'est-à-dire que il y a toute l'idée de ce qui est montré aux téléspectateurs. C'est que c'est un choix, ça, de la direction. Moi, je reprends tout le temps l'exemple de Jay Dutemple, il est devenu une vedette avec Occupation double, puis c'était loin d'être un choix évident. Sébastien Benoît, Éric Salveille, ils auraient tout passé avant. Ils l'ont tout fait, d'ailleurs. Là, tout à coup, t'as un jeune, plus funky, son Instagram, plein de monde. C'est que tu fais comme, OK, les jeunes, le public cible l'aime. Mais ça reste que c'est audacieux, parce que j'entends déjà les vendeurs dire, « Ouais, mais on le gagne un peu. » Aujourd'hui, le connaissez-vous? Ben oui. Ça fait que c'est vraiment plus ça, le reproche que j'ai à faire aux antennes. C'est de dire, quand vous voyez un talent qui clenche, arrêtez d'attendre qu'il soit au plus haut des cieux. Pognez-le tout de suite, puis faites-en votre vedette locale. C'est comme un peu hallucinant de tout le temps attendre qu'il arrive, on sait pas trop quoi, puis là, il tombe à la mode pour des raisons obscures. Parce qu'ils sont tous remplaçables, là. C'est tout le monde, là. Moi, le premier. Et si Louis-José Hood meurt, il y a un autre humoriste qui va être non pas comme lui, mais qui va prendre sa place sur le marché, comprenez-vous? Il y a tellement de monde qui aveulent cette job-là, il y a tellement de jeunes crinqués, puis Dieu merci. Ça fait que grosso modo, moi, je suis pas surpris de voir que c'est toujours les mêmes qui gagnent les prix, parce que c'est ça que les gens veulent, mais les gens veulent, au final, quand même ceux qui sont capables de voir dans leur télévision. Puis ça, c'est une décision. C'est comme si un bureau d'assurance pouvait choisir de créer son vendeur vedette. De dire, toi, on te prend, là, puis tu vas être un vendeur vedette, tu vas vendre l'assurance comme un malade, parce que nous autres, on a les outils pour te rendre vedette. On va te faire de la TV. Tu sais, ça existe pas, ça. Sauf en radio ou en TV, où tu peux créer ta propre vedette. Alors, il faut que tu vises bien, il faut que tu saches que la personne va tenir la chaise comme il faut, mais ça peut se faire. Et c'est très rare que ça se fait. Habituellement, c'est comme une espèce de jeu de serpent et échelle, puis là, il y en a un qui réussit à monter, puis là, tout le monde, ah, c'est lui qu'on veut. C'est très spécial. Alors, voilà. Donc, écoutez, I'm back. Et puis, désolé encore pour vendredi. Salut.